December, every sign has its own mode. I was in love with the Sagittarius. See the emotions he put me through. From Capricorn to Aquarius, they all got their different minds. The affection of a Virgo, which sign matches good with mine? I'm a workshop. I was in love with the Sagittarius. Gemini, he was freaking like a Taurus, the way he handled me, yeah, flirtatious like an Aries, which sign is best for me? Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, a Virgo, the same sign as me. You know how to show me love, cause I've been hurt by Pisces. I want him sexy like a Scorpio, the way he holds me close, yeah. Sensitive as a Cancer, every sign from coast to Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer.
Is this your first time on Audio Smut?
Audio Smut is like ice cream on your stomach on a hot day. Audio Smut is like having sex in a boxing ring.
Rough and ready.
We're going to talk with sex workers, we're going to talk with queer folks, we're going to talk with trans folks, we're going to talk with people who make comics, people who write books, people who need to talk about sex and can't.
Audio Smut is creative sexuality, weird sexuality.
What turns you on? Education, politics, culture. We've got it all.
That was amazing. When I have sex, I think about radio. When I have radio, I think about sex.
Audio Smut has already interviewed Annie Sprinkle, Tom Waugh, Suicide Girls, your best friend, your neighbor.
Audio Smut airs on CKUT 90.3, the first Wednesday of every month from 6 to 7 p.m. Tune in and get off.
Like an action, exactly a stroller passing by the window. Two cups slinking by stupidly. Check the mail, there's nothing there, just the story you'll tell. What it's like to account as much as the rain comes. After many bad days, my friends are mad at their lovers. I love my friends, will we all be lovers in the land of that was it. One last, you know, foray. Try to flatten yourself to listen to yourself. Maybe a couple friends, like one or two, or better than none. People like it. That gleaming again on the far side of the roof. To the right, to my right. This neighborhood smells like the one I grew up in, but that's 300 miles away. Dear I'm sorry. I haven't called you. You must be well. Well, my mother says so. Do I trust her? Do I trust you? Nut three, nut flies, more nasturtiums, more, you know, lilacs. Heavy birds. Hey, bird. I want to be you.
You're listening to Audio Smut on CKUT 90.3 FM. It's now 6 and 10. We are in the studio live for the first time ever, just the three of us, which is lovely. In the studio, there's me, Mycelium. There's Polina.
Hi.
Danny.
Hi.
And also our friend Sydney.
Hey, everyone.
Do you want to introduce yourself a little bit, Sydney?
Sure, yeah. I just was talking with Mycelium this morning about maybe coming on spontaneously, just to chat a bit about what I've been doing this summer, which is I'm undertaking a fieldwork portion of my PhD project, which is looking at exploring the ways that queer people in Montreal use occult practices as part of their world building or self-knowledge. And in particular, I'm arranging like group discussions and one-on-one interviews to negotiate and navigate the ways that this sort of historical repair, or what I think of as forms of historical repair through magic, how we can confront like the legacy of this as something that is done on stolen land, is something that is also sort of wrapped up with our own kind of desperate attempts to find some other foothold in history beyond what we've sort of inherited, and how we can confront the sort of messiness or like the risk of doing that as queer people, as people who have different kinds of legacies of like belonging. Basically, gay magic, why do we do it, and how do we do it in a way that faces head on all of the like the danger of that, and finding sort of a form of relationality through that kind of risk.
Thank you for summarizing a lot of years of work and research. Well done. Mm-hmm. And I guess you've all recognized Beyonce singing Signs featuring Missy Elliott. which is kind of a wink or a nod to your research and your focus in parts on astrology and how astrology kind of became somehow through the years and the millenniums a way for us to relate and small talk and break the ice. So maybe we could start by sharing astro signs.
Wow, that's intimate.
Yeah, right?
We're going there.
Yeah.
Yeah.
I mean, you don't have to. It's very private, I know.
We are on a show about intimacy. I can do this. It's okay. Palina, do you want to start?
Oui. Donc, je suis Capricorne. Ascendant Capricorne.
Yes.
Sexy.
Et ma lune est Sagittaire.
I love the wild side.
I'm Sag, Sun, Scorpio rising, Capricorn moon. I feel like it, whenever we do this, it's always like that pause of like the like required like reaction that everyone has to have, whether they're like ooh or like laugh or something, and it's like so jarring.
If or like interesting.
There's nothing after, and you're like, wait, what you have. Like, you know, it's like that kind of moment of relation is so necessary for like, I know, after you like disclose.
Yeah, no, definitely. And it's interesting because then people just go look into their own archetypes, you know, and then for a second, they're not with you anymore. They're like, oh, I know about Capricorn. Like, I've read that into a book and that's what it makes me think of, you know?
Yeah, like there's a way they could like, instead of connecting with you, they like retreat into like, okay, what do I know about that? What are the things I can like immediately project onto you?
Yeah, and sometimes there's that awkward silence when they're kind of intimidated or taken aback
or
by
like,
the combination.
I actually don't know anything about Aquarius.
Yeah, exactly.
I mean, I love Aquarius, it's not just... I'm a Gemini, Capricorn rising, Virgo moon.
A lot of Capricorn energy.
A lot of
right
Capricorns.
Now. I'm loving it. I'm a Cancer, rising Scorpio, with a moon in Libra. So I look deep, but I'm actually very stupid and pitas. Et juste pour être clair, aujourd'hui, ça va être un peu un show bonne franquette et bilingue. On va passer un peu d'une langue à l'autre, as we often do. Mm-hmm. So if you're a regular listener, you won't be surprised by that behavior.
Honestly, also, that's just kind of like the culture of like, I don't know, queers in Montreal. I feel like like Franglish is becoming a real thing. It's like, I don't know for you, but like I think in Franglish, like I just can't remember my French anymore somehow.
Mm-hmm. Well, I was going to say also astrology, like it... at the end of the day is also another language. It's like a shorthand or a coding to like, I don't know, communicate something or like offer some other pathway to like understanding, even if it's tongue in cheek or whatever, just like language in itself.
But. And I'm really curious about your research. I feel like sometimes like I've done like research too, like in anthropology before, and like often we do research and we're not necessarily, we find what we've been looking for a bit, and sometimes we're really surprised by what we're finding. Same thing as like tarot, somehow, you know, we're like, oh, that was my hypothesis, or I was like thinking about this. Have you been surprised by things that you've heard or that you've encountered in the field when you like left notebooks and stuff?
That's a really great question. I think like coming from a kind of ethnography background, or like, you know, the departure from like just reading or sitting at my desk and like tumbling through concepts, like toward talking with people, like I feel like I do that because I'm looking to be surprised. I'm not like actually, if you want to, there's 100 million ways to confirm what you already know, but like if you want to like find an impasse, then talk to someone else or try to explain what you've been working on for so long to someone who isn't on the same page as you. And I think like it's interesting because I feel like some of the ways that I've talked to people about how they approach magic, it's exactly a kind of like the most successful ways of doing it, maybe for lack of a better word, are ways that like do so not in anticipation of anything really beyond like beyond, I don't know, like fostering a kind of openness in itself. Like you can look at like divination as a way to just like lead you somewhere, but if you think of it as if you like open yourself up to, or you like practice being receptive to something that you maybe haven't expected before, then that's exactly maybe like that's where the transformation is going to come from. I think it's like I think of it as a practice of opening yourself up to something else, like a kind of like, I think we've talked about this before, like a kind of like bottoming of knowledge or something, to put it in like a silly way, but like that receptiveness or that like openness to something else is actually like a skill that you can learn. And I think like magic is one way that like people maybe that I'm talking to at least are like practicing opening to like that kind of surprise or that not knowing in advance.
And did you have maybe an announcement to make regarding your project?
Yeah, so actually, so throughout the spring and summer, I've just been like meeting lots of great people talking about this stuff. And there's one group session that there's still spots for that I would love to like invite anyone listening to like get in touch with me about. So I've had like group sessions of like 9 to 12 people talking about their different like relationships to the occult, the ways that they like think of themselves as like participating in like a queer endeavor through it, or just like what magic, like witchcraft, whatever astrology means to them. And there's one group session on July 17th. And if you want to be a part of it just for a couple hours, like discuss with a few like nice people, like what it means to you and how we can sort of negotiate the ways of like coming to being with each other and like talk about some of the hard stuff through it, like what it means, you know, what it means to negotiate this as something that is like inherently like tied to empire or colonization, or like unpacking tough things around race. Then please get in touch with me and we can see if we can like touch base. And the way you can do that is through email at queer occult, so queer and then occultmtl at gmail.com. And I'm happy to give you more info about the project. You'll be paid $45 to participate. And there's also ways for like participants to like meet, connect, to make other inroads into the project if they have their own ideas about like a kind of collective output of where this could go. And I really do want it to like eventually leave my hands, you know, and just facilitate space for like connections beyond my own goals and priorities. So.
Wonderful. Well, we'll also include all that information in our show notes. So don't worry if you haven't been able to quickly take note of that email and you're interested. Just go and visit our page at AudioSmut. We're going to take just a quick little musical break and we'll be back in 5 minutes.
Superfly, fly guy. I am Gemini, two heads, one eye. I am Gemini, like Pac, Andre, Lauren, and Kanye, Boy George, and Anne Frank. I am Gemini, but no, I'm not fake. I am Gryffindor, but don't move like Snape. I am Gemini, people love to call me crazy, but they judging and they hating, and I'm too grown for explaining. I am Gemini. June 14th, and all the famous rappers got a sign like me, and all the famous rappers got a heart like me, but I know that I'm different and they're not quite me. I'm the horoscope hoe, I'm the planet and moon, I'm the rising ascendant, fifth degree to the moon, I'm the witch of your dreams, I'm the voice in your head, your husband sent me a DM and I just left him on red. My planet's Mercury, my element is air. I'm such a free spirit that I don't fucking care. If I got a blunt, I ain't moving out my chair. You can kiss my derriere, cause it's shaped like a pear. Little zodiac, ginger snap, pretty little shorty with the snapback. Tarot deck on sack, like to get her feet wet with peep sweat. The freak neck from all up to BX, I clean up like Kleenex. I'm recess, kickball to the deep end. The public school era is old school forever. The moon and the tides really control the weather. The sun and the moon, yes, it do go together. A spiritual being that rides any weather. Riders on a storm, riders on a storm. Yes, I'm on my own, trying to find up my home. Riders on a storm, riders on a storm.
always on my own, trying to find up a home. Intelligent, adaptable, agile, communicative, informative, creative, and everybody hates it. Imagination colorful, when I just entertain it. A poet and a dreamer, I'ma seize the world and take it. Of course, there is the bad, I'm really superficial. I ain't called you in 3 months, still I maintain that I miss you. A Gemini with issues, social isolated. I pray that I'ma make it, or at least that I can take it. And like a Gemini, I'm really prone to changes. I'm really indecisive and I really fucking hate it. Picking food or picking clothes, it always make me anxious. But thank God I'm androgynous, cause boys close what I stay in. Riders on a storm, riders on a storm. Yes, I'm on my own, trying to find up my home. Riders on a storm, riders on a storm. Always on my own, trying to find up a home.
Welcome back to Audio Smut. You're listening to CKUT 90.3 FM, and I'm going to be reading another text from an anthology of radical transpoetics, which is a beautiful book that is edited by Andrea Abikarim and Kay Gabriel. And the text that I'm going to read to you right now to reopen the discussion about gay magic and everything that relates to it is by Cody Rose Clevidence. And it's called Nothing Makes Sense About This Flower. Because it would mean they have forgiven us. George Open. Desire's deep rush, pasture of atonement, cherries grown from seed. The kingdom of heaven is not so great. The dawn is not so great. Behind the dawn, there is another, bigger dawn. When I have gone rapturous before the fold, when I have gone and gotten myself fucked with the world, the wordedness of the world, leaf green, pheromonal, probably drunk, crawling with such sensations. When I have gone and tended what once tending, hellebore, hollyhock, angel of mercy, don't flinch. When gods hold each other down with a gentle yet terrible force. Yes, oh, make of this the waterfall, the glory of the godhead. Thy rod and thy staff, just kidding, they comfort me. We are already late for the threshing, for the harvest of earth is ripe. I do not know how still the waters will be, where we are going, or how green the pastures. It is already summer. Kneel down. There is wretchedness upon the earth, and many goldfinches. There is something caught in the air, here, where we are becoming reciprocal animals. Look, I hold in my hand two cherries and don't know how to ask permission.
Thank you, Danny, for that beautiful poem. You are still listening to Audio Smut on CKUT 90.3 FM. And we are talking about gay magic today. The song you just heard before the poem was Gemini by one of many Gemini icons, Princess Nokia. And let's just get right into it. Like, what is your relationship to magic? Peut-être je commencerai avec Palina.
C'est une relation qui a évolué vraiment.
Vraiment, je pense que quand j'étais jeune, j'avais une tante qui gagnait sa vie en tirant les cartes et en tirant le thé.
Puis j'ai toujours voulu vraiment me faire tirer et tout ça. Mais je pouvais pas parce que j'étais un enfant. On tirait jamais aux personnes en bas de 18 ans. Puis j'ai toujours attendu très patiemment d'avoir mes 18 ans, mais elle est décédée quand j'avais eu mes 19 ans. J'ai jamais eu le droit à mon tour de tarot par ma tante que je chérissais vraiment, que j'étais... Mais je me rappelle, elle m'avait montré quand même avec des jeux de cartes un peu plus classiques, tu sais, un jeu de cartes avec le trèfle, les carreaux et tout ça. Elle m'avait montré une première façon de tirer. Puis je faisais ça à l'école. Puis j'avais un peu... J'en ai fait l'heure dernièrement, mais je réalisais que j'avais comme mon petit stand, genre de vraiment magic. Puis je faisais des tatous aussi, avec des trucs vraiment comme craft, puis de la colle, on faisait sécher sur un papier, puis là, je tirais les gens. Donc, j'étais comme déjà into it à peut-être genre 7-8 ans, là, je pense. Puis j'ai laissé ça vraiment derrière, puis j'ai retouché dans les dernières années, parce qu'elle m'avait dit que j'avais le don, mais j'étais comme, oh, qu'est-ce que ça veut dire? Puis j'ai retouché dans les dernières années avec moi-même, avec des cartes de tarot et tout ça. Puis je pense que j'ai compris qu'est-ce qu'elle veut dire par rapport à... Tu sais qu'on dit avoir une vision. Au début, j'étais comme, mais qu'est-ce que ça veut dire, avoir une vision? Puis finalement, maintenant aussi, pour des gens, je pense que c'est vraiment absurde d'avoir une vision. Mais pour moi, c'est très rationnel, avoir une vision. C'est l'imaginaire qui donne des images pendant qu'on monte une carte, puis on est capable d'aller plus loin que l'image qu'on vient de tourner. Si on parle de tarot, par exemple, on est capable de vraiment développer ce qu'on voit. Puis il y a des gens qui vont dire que c'est seulement l'imaginaire, on y croit ou on y croit pas, mais veux pas, c'est un message qui m'est apparu à la suite d'une carte que j'ai tournée, par exemple. Puis ce message-là, ben, il vient de quelque part, tu sais. Puis la carte qu'on a tournée à ce moment précis, ben, on en fait ce qu'on en veut, mais c'est cette carte-là que tu as tournée maintenant qui m'a apporté cette image qui est une vision. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce message-là? Mais il vient de quelque part, tu sais. Mm-hmm. Puis je trouve que... Je sais pas, maintenant, j'apprends à l'assumer que j'ai des visions, mais c'est quand même... un amour qui évolue, tu sais, qui est aussi même de l'assumer. Parce que je veux pas... On parle aussi... Tu sais, dans ma tête, j'imagine quand même, je me mets quand même à penser que le privilège en tant que femme noire... à ce jour, de pouvoir dire haut et fort que j'ai fait de la magie, que j'ai des visions. Il y a des gens qui ont été meurtris pour moins que ça, puis qui le disaient pas haut et fort. Fait qu'il y a quelque chose que je sais pas, des fois, où me placer par rapport à mes ancêtres, qui étaient aussi des magiciennes. J'aime pas le mot magicienne en français. En français, c'est bizarre, mais c'est comme, ouais, des sorcières. Mais même sorcière, j'ai de la misère avec la connotation française, mais ouais, voilà. Ma relation première avec ça. Mm-hmm.
Mm-hmm. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager? Ou de répondre à Paulina?
Ben, je trouve ça intéressant, en fait, que Paulina parle de sa relation dans l'enfance, parce que moi aussi, définitivement, j'ai grandi dans une maison où est-ce qu'il y avait beaucoup de livres sur l'occulte, des livres sur l'astrologie, sur les lignes de la main, puis je passais beaucoup de temps à lire ça, puis à me créer des mondes, à lire beaucoup de fantasy, puis j'ai créé une école pour sorciers quand j'avais 10 ans, parce que j'avais reçu... je sais, c'est quelque chose que j'avais jamais dit vraiment à personne, puis je l'ai dit à une personne, puis ça l'a unlock le secret, genre. Fait que je me dis, maintenant je reclaim, je n'ai plus honte, ou encore un peu, mais c'est correct, j'en parle à la radio maintenant. Fait que j'avais reçu un boîtier de magie blanche, tu sais, dans lequel il y avait genre des chants, de l'encens, un petit booklet. Puis moi, du haut de mes 10 ans, j'avais décidé que j'allais devenir la directrice de la nouvelle école de sorcières. puis que j'allais inviter les petites voisines qui allaient à la même garderie que moi. Fait que là, finalement, j'ai eu le culot de leur faire des cartes d'invitation. Puis leurs parents les ont amenés chez nous pour venir prendre un cours. T'sais, on n'allait pas hang out, là, ils étaient plus jeunes que nous. Là, c'était vraiment une classe. Ça a duré deux fois. J'ai fait ça seulement deux fois, mais ça m'a quand même marquée. Mais que je trouve intéressant maintenant, puis après, bon, ça a passé plusieurs années où est-ce que j'en ai plus vraiment... J'ai pas retouché, mais maintenant que c'est une pratique qui est plus courante dans ma vie, la similarité que je vois entre cette expérience-là à l'enfance, puis ce que ça m'apporte aujourd'hui, c'est vraiment le fait de reprendre une sorte de pouvoir sur ma vie, sur les éléments, d'avoir un rapport créateur puis transformateur avec l'environnement qui m'entoure, parce qu'à l'époque, c'était un peu ça, c'était une façon de créer un autre univers, de d'entrer en contact avec, avec les éléments, avec les personnes, mais aussi de rêver à notre, quelque chose de différent que l'école, que je trouvais vraiment le summum de l'ennui puis de la déconnexion. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ça que ça m'aide à diriger puis à channel un peu les rêves que j'ai par rapport au monde, puis à, grâce à l'intention, comme transformer la matière un peu qui m'entoure, puis donner forme à, au chemin qui me porte, tout en étant en connexion avec des forces peut-être invisibles, puis à créer du sens. Donc je pense que des fois, il y a quelque chose d'instinctif quand, dans les enfants, dans le jeu, dans la présence, dans le rapport à la magie. Puis quand tu retrouves cette confiance-là en toi-même qui te permet de jouer puis d'imaginer, tout d'un coup, tu retrouves ton pouvoir. Donc, je trouve ça quand même beau.
Mm-hmm. Yeah, I like, I mean, both of you so elegantly sort of like conjure that up in terms of your own relationship. And I think for me, it obviously is really intellectual because, you know, that's the way I've been able to sort of think through it and find a way in. Because I think for myself, like, there is, like you're both saying, I think, this kind of wish to channel or, like, bring up or reclaim a sort of power. And for me, I think there's a lot of anxiety in where that power comes from, or there's sort of, like, as a white person, as a settler, like, I want to find a kind of magic or a kind of, you know, goodness in my past, but it also feels like something I need to like resist needing to find, if that makes sense, like as a way to like absolve myself. But at the same time, it's sort of like, okay, well, what do we do with that conundrum? What do we do with, you know, wanting to navigate or draw knowledge from some other source other than what is maybe available to us without doing that, like without circumventing or without trying to like take myself out of or make myself prior to that kind of encounter. So I think maybe I wish to think of it in less of a, to open myself up to it in a way that is like less intellectual and more kind of in submission to that, the forms of play you're sort of discussing, but it feels like there's like work I need to do to allow myself to let that happen, if that makes sense. So the relationship to magic is very much like a kind of political, like working through how certain systems of value have been like hierarchized and how those are like sort of racialized in themselves. And if we want to like shift those rubrics of evidence or where, if something, you know, comes from the mouth of a certain person, whether it is considered truth or not, who is allowed to sort of engage in certain forms of like testimony, shifting that like form of valuation and doing that, like, do we call that magic? Do we call that like disrupting whiteness? Like, what do we call it? And what is like my part in it? How can it be a form of like collective like movement as well? Or is it just like a personal like path outward?
Mm-hmm. Ouais, dans vos tours de table, j'entends beaucoup des considérations systémiques émerger. Il y a Dani qui nous parle de l'aliénation de l'école, par exemple. Palina qui nous parle de la charge émotionnelle d'être capable de pouvoir pratiquer la magie en sachant que ses ancêtres ont peut-être été probablement persécutés pour les mêmes pratiques. Mm-hmm. Et on a Sydney qui, depuis des années, réfléchit à sa positionnalité en tant que personne queer et intéressée par la magie. Puis j'écho un peu ce sentiment-là. Puis je trouve ça intéressant que ce soit la première direction dans laquelle on se dirige pour parler de l'intersection queerness et magie, parce que, effectivement, pour moi, la magie, c'est vraiment une façon de réfléchir, un angle, un framework pour réfléchir et vivre des questions de pouvoir et des questions de connexion. Donc c'est une façon de réaligner ses priorités, d'entrer en contact avec son propre pouvoir, en prendre connaissance et en prendre responsabilité. Savoir que c'est le harness et le diriger dans une direction qui fait du sens. Et évidemment, de ma perspective, qui est celle d'un colon blanc, reconnecté, en quelque sorte, avec Dieu. Parce que c'est un des nombreux evils de la suprématie blanche, c'est la déconnexion de la source, de la nature, de l'unité, de l'interdépendance, de toutes ces questions-là. Donc pour moi, ça a beaucoup été connecté à des enjeux politiques, sociaux, et particulièrement de justice, donc de réalignement de priorités et de mise en marche de ces priorités-là. Puis je me demande, je connais ton projet, Sydney, parce que j'ai participé dans les derniers tours, puis je sais qu'une de tes grosses questions, c'était, un de tes gros angles finalement, c'était est-ce que les personnes queer blanches à Montréal se désinvestissent ou se déculpabilisent ou escape leur rôle et leur participation dans la suprématie blanche en reclaimant la position de sorcière, par exemple. Puis je me demande si t'as des résultats à partager par rapport à cette question-là, ou si entre nous, vous avez des expériences qui corroborent un peu cette hypothèse-là, ou des situations dans lesquelles cet enjeu-là a pu émerger.
Yeah, thank you for. I'm also, by the way, I'm just going to answer in English because it's easier for me. But yeah, that is very well sort of summarized as like a main question or angle for me. And I think, you know, it's not supposed to be like a gotcha moment, like this sort of like critical paranoid reading of like, oh, look, what you're actually doing is violent and stop. It's more of a curiosity of the ways historically that like white people, and even more specifically like white queers, have found a kind of homecoming in like forms of maybe indigenous spirituality or like forms of relationality that like are not quote unquote theirs, if we can sort of make so simple of a distinction. But what that kind of, I'm more interested in not in, you know, who is allowed to do what, whose possession is what, and what I find sometimes be a kind of limiting sort of framework of cultural appropriation sometimes, but more of this trying to understand what kind of drives or motivates some like queer people to want to like look for something else, for look for some form of like historical connection or a way of becoming historical that they are either denied or feel that they're denied, and whether or not that can play out in a way that acknowledges rather than like pushes away or evades or denies the ways that queerness actually is born out of like the colonial encounter and is like completely imbued with like race and like absolutely is like emerges through and is co-created with like racism and other forms of power. So I think, you know, what I have found has been really I don't know, really generative actually in the ways that people are thinking about these questions really carefully and trying to understand, you know, how like there's a sort of pattern that has emerged through people needing to work through that like, you know, guilt that they feel or that sort of like self-hatred or the like the feeling of anxiety and realizing that that's not actually like a very effective place to do any kind of work, and trying to understand the ways that they like can make connection with the past or with their place in a lineage that moves toward a kind of like a curiosity again, like this idea of curiosity, but this like this confrontation with this confrontation with something that is like not easy to think through, but is like doesn't have to also prevent like magic doesn't have to prevent like becoming something else, if that makes sense. I think yeah, it's hard to talk about it on the spot sometimes, but I don't know if you like, if there's things that came up for you when we sort of were discussing that, like in our group, or what's your experience?
I mean, I just have it's just something that I've witnessed and that I've performed also in my mm-hmm. life to you know, avoid responsibility just by, because I was because I am queer and trans, for example. Mm-hmm. And I know this a good anecdote of some friend of mine who was in an event, and it was a conference about racism, and a white trans woman took the mic to ask a question and opened by saying, "I'm white, but I'm trans," and then said, "Oh, I'm sorry, I'm white and I'm trans." And I feel like this is like a good image for something that does happen. Mm-hmm. And I guess the kind of like implicit magic of mm-hmm. being queer and trans, which mm-hmm. I agree with. I feel like definitely, especially in my experience, like transness and perhaps especially transsexuality, I feel allows to have multiple angles on life and in a way that is surnaturel and that is kind of magical. Mm-hmm. like access to another realm. Mm-hmm. Yeah, but I would open the floor to Paulina and Dani, maybe.
Ben, c'est intéressant à quel point que, comme, tu sais, qu'est-ce que c'est finalement la magie, tu sais, comment on l'expérimente, comment on la vit. Tu sais, on a commencé par parler, ben moi j'ai commencé par parler de cartes, mais c'est plein de choses justement. T'as parlé aussi de la relation avec le Dieu et l'univers. Il y a des rituels, que ça soit aussi avec les astres, la lune. Puis il y a aussi justement comme dans notre propre identité, est-ce qu'on peut être, pour moi, on peut aussi être, plus on touche à notre essence, puis qu'on accepte qui on est, puis comment on sent qu'on doit être. J'ai l'impression que c'est juste ça, c'est même d'une sorte de magie transcendante. Puis dans certains événements, quand on se permet de se rassembler dans cette pureté humaine, on peut la vivre, tu sais, cette connexion humaine, pour moi, ça aussi, ça peut aller jusqu'à la magie, jusqu'à transcender émotionnellement, psychologiquement des choses. Plus on parle de magie, plus j'arrive juste à me dire que, bon, tout est magie, finalement. Jesus, like. Mais comme, oui, je sais pas. J'ai l'impression que le monde devrait être magique. L'amour, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est de la magie. Il y a quelqu'un qui a déjà vu à quoi ressemble l'amour dans une texture, tu sais. Mais on le ressent. L'amour transforme le monde. L'amour arrête des choses effroyables. Pour moi, c'est magique aussi. Puis je pense que le monde devrait être rempli de cette magie, tu sais. C'est juste de croire à plus fort que ce que l'humain est capable. Je pense que ça va là, de croire, de voir, d'entendre, de sentir. Ça semble absurde et superflu, mais finalement, j'ai l'impression que c'est encore plus simple que qu'est-ce qu'on tente de rechercher quand on dit c'est quoi la magie, tu sais.
Mm-hmm. Puis je pense que quand on parle de magie, puis de suprématie blanche, puis de rapport à la race, c'est aussi un peu comme un cercle vicieux, dans le sens que chaque personne blanche qui n'est pas en train de se questionner sur sa complicité avec la suprématie blanche est en train de participer à la suprématie blanche. Donc, oui. Pour moi, que ce soit des personnes qui pratiquent la magie ou pas, ça a un impact, puis ça a une intersection, puis ça vient matérialiser certaines réalités différemment, mais c'est relativement similaire, tu sais, pour moi, dans le sens que quelqu'un qui est une personne blanche qui n'est pas activement en train de se positionner puis de se questionner sur ses pensées, ses actions, ses choix, ben s'il est en train de faire de la magie, va pas nécessairement comprendre les biais qu'il est en train de faire. Mm-hmm. Puis je pense que, comme tu l'as dit, Mycélium, puis d'autres personnes autour de la table, que le cœur un peu de la suprématie blanche, c'est le fait d'effacer l'identité culturelle pour créer un mythe de la blancheur. Puis de là, le vide spirituel, le vide identitaire qui fait qu'il y a besoin d'être rempli, un peu ce monstre-là qui a faim puis qui va avaler tout sur son passage. D'où c'est comme ça que moi je comprends l'appropriation culturelle, t'sais, d'être comme devant le néant identitaire. J'ai besoin de prendre n'importe quoi pour pouvoir faire du sens, tu sais. Mais j'ai plus accès à mes propres origines ethno-folkloriques parce qu'ils ont été effacées au profit de la blancheur capitaliste coloniale, tu sais. Ça aussi, c'est de violence, tu sais, dans le sens que la violence qui est créée puis provoquée par la suprématie blanche est ancrée dans la violence, tu sais, qui est pas pire, là, comme pas du tout, mais c'est juste un système de violence, tu sais, pour tout le monde qui bénéficie pas nécessairement non plus aux oppresseurs, tu sais. Puis je pense que quand les personnes qui font de la magie se questionnent sur leur blancheur en tant que personne blanche, puis à leur participation dans les systèmes racistes, puis dans les systèmes de suprématie blanche, à ce moment-là, il peut y avoir un questionnement, une écoute, un moment de pause à se demander, ben, d'où vient mon désir? Pourquoi est-ce que cette pratique-là m'intéresse? Commencer à s'éduquer davantage, à voir qu'est-ce qui est une pratique qui est ouverte, qu'est-ce qui est une pratique fermée. Puis ce que j'entends par pratique ouverte ou fermée, c'est qu'il y a certaines pratiques de magie qui sont créées pour être partagées, puis d'autres qui doivent être diffusées ou transmises par initiation à des personnes qui sont pas à tout le monde, qui sont comme délimitées dans un certain groupe de personnes, puis de respecter ça, d'être ancré dans le respect de... C'est des pratiques qui sont sacrées, t'sais. Puis si on n'est pas initié à ces pratiques-là, on les pratique pas, tout simplement. Puis de cette manière-là, pour moi, le fait d'avoir un questionnement sur la suprématie blanche, moi, c'est un peu ça aussi qui m'a amené à la magie. C'était ma questionnement sur, ben, qui suis-je alors, t'sais, c'est quoi mes ancêtres, c'est quoi mes racines. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes blanches qui ont peur de se poser la question des ancêtres parce que ça les confronte à leur participation à la suprématie blanche. Mais il n'y a rien à faire, là, ils sont complicités. Donc, je pense que c'est ça la partie qui amène une guérison, c'est de, oui, regarder ce passé-là, de voir cette souffrance-là, de voir... Puis de voir au-delà de ça aussi, tu sais, de retrouver, d'être curieux, de voir c'était quoi, en fait, les pratiques culturelles, c'était quoi les pratiques spirituelles, qu'est-ce qui fait du sens maintenant... Est-ce qu'il y a des trucs qui restent? Est-ce qu'il y a des trucs qui doivent changer? Il y a beaucoup de choses qui doivent changer, tu sais. Mais c'est cette honnêteté-là, puis cette capacité à être présent à ces émotions complexes-là, puis à ces réalités complexes-là, qui permettent, je pense, une transformation culturelle à long terme, là. Puis je pense que c'est ça, c'est comme Resma Menakem qui le dit, c'est pas... La déconstruction complète du racisme et de la suprématie blanche n'arrivera pas dans 2 ans, là, t'sais, ça va arriver dans plusieurs générations. Puis je pense que c'est ça aussi, c'est l'urgence qui est associée au capitalisme nous empêche d'être à l'écoute. T'sais. Faut que ça soit fini maintenant parce que je suis pas capable de vivre ma culpabilité. Ben, ça va être long puis on va être inconfortable longtemps. Puis je pense que la magie, moi, m'offre des outils pour être présent dans cette complexité-là parce que le monde est complexe. Puis ça m'amène une vision du monde qui a beaucoup d'ombre. Beaucoup de noirceur, mais aussi beaucoup de lumière, tu sais.
Ouais.
I like how you talk about white supremacy as this kind of like hunger or this like hungry monster, I sort of put it, that is like cognizant or it operates through that kind of void or that the myth of emptiness. And I think that's why I think of magic as so deeply temporal because. You know, 19th century, like late 18th century theories of race were like very much saw race as this kind of palimpsest, and like whiteness was the act of like erasing, always forever incompletely, then like not always totally erasing, but trying to erase everything that came before it, and the threat and that anxiety of those traces coming back was always present, and so whiteness is sort of this like. Act of trying to manage those like that those traces are of appearing again and trying to like naturalize that no the surface is here it's always been empty and I feel like magic is sometimes about trying to excavate those traces again or not necessarily doing anything new but showing that there has always been that, like, that stopper, that's always that sort of voiding has always been, like, resisted and has never been, like, totally complete. So I think of it as very temporal, sort of in the ways you're thinking of, like, it is a practice of, like, moving through time or thinking about time or understanding the ways that time is sort of, like, managed and felt and, like, ordered, in our relationships.
Mm. Merci tout le monde. On est allé assez deep dans la question de l'analyse et de la critique et de la gestion des émotions inconfortables qui émergent. Mais vu qu'il nous reste juste quelques minutes avant la fin du show, j'aimerais peut-être revenir à la dernière intervention de Paulina qui parlait d'amour, de guérison, de l'espèce de pouvoir énergétique, là, l'espèce de contamination qui se passe en fait quand on performe des spells, des prières, des rituels, des cérémonies. Fait que je te laisserai peut-être la parole pour les dernières minutes.
Ben, je pense que tout ce que je pense après toute cette discussion-là, je m'attendais pas à vivre ou à penser tout ça ou à attendre tout ça. Mais je trouve que finalement, je pense que la magie pour moi, c'est vraiment it's about heal, it's about love and it's about light. Comme pour moi, c'est ça. Tu sais, que ça soit dans le son, dans les chants, que ça soit dans aller chercher des réponses dans les cartes, que ça soit dans le mouvement, dans se rassembler. J'ai l'impression que c'est toujours ça les trois ingrédients principaux. Après, comme tout dans la vie, tout le monde performe de différentes façons puis pour différentes raisons. Donc la magie est parfois performée pour différentes raisons qui ne sont pas amour, lumière et guérison. Absolument, ça existe. Mais à mon sens, c'est de là que ça part, tu sais. À mon sens, c'est ce que ça émane avant que ça soit des mots, tu sais.
Ben, merci beaucoup pour votre présence, Paulina, Dani, Sydney. C'était vraiment le fun d'être en studio ensemble pour la première fois. J'espère qu'on va le refaire. Puis je vous souhaite une belle fin de votre mercredi soir. Vous êtes toujours sur CKUT 90.3 FM. Vous écoutez Audio Smut. Il est 6h54. Et
on va finir avec la chanson Luna de Noé Lira. Parce que la lune, pour moi, c'est mon instrument premier de magie.
Hell yeah! Shout out à cette queen de la nuit, la lune. Bonne soirée, tout le monde.
Bonne soirée. Bye.
Hasta el día que muera. haga falta para liberarnos, para sanarnos, para igualarnos, para defendernos, para cuidarnos, amarnos, mimarnos, para protegernos, para celebrarnos. Para las hijas, las soñadoras, las creadoras, enamoradas, las curanderas y mis hermanas, todas las lobas, luna, luna, luna llena, dejen las aguas alumbrarnos el camino. Desde la montaña, luna, luna, luna llena, irriga las venas, llénalas de fuerza, luna, luna, luna llena, aullaremos por las nuestras.
Nuestros cuerpos, nuestras vidas,
ni una menos, ni una menos.